Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la polyradiculoneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, ou PIDC. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Philippe Plançon, qui est touché par cette maladie, président fondateur de l'AFNP, l'Association française contre les neuropathies périphériques, et qui fait partie du groupe de travail multidisciplinaire du tout récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins sur les PIDC, qui est paru en avril 2021. Monsieur Plançon, bonjour.
Bonjour.
Alors, Monsieur Plançon, on l'a dit en début de ce podcast, vous êtes touché par la PIDC. Quand et comment sont survenus les premiers symptômes de votre maladie ?
Oui, merci de m'accueillir et merci pour cette question. Effectivement, je suis atteint d'une polyradiculonévrite inflammatoire démyélinisante chronique depuis plus de 20 ans. Les premiers symptômes sont apparus de manière un peu aiguë, puisque j'ai perdu, ce qui est assez étonnant pour une maladie chronique, puisque j'ai perdu l'usage d'un bras alors que j'avais un rhume hivernal, en tout cas une petite infection hivernale. Et c'est à ce moment-là qu'on a démarré les investigations. Donc j'ai perdu l'usage de mon bras gauche alors que je suis gaucher. Et encore une fois, de là a démarré une sorte de parcours de soins où on s'est interrogé, les médecins se sont interrogés sur les symptômes, ces symptômes-là. Finalement, cette entrée dans la maladie s'est arrêtée presque aussi nette, c'est-à-dire que les symptômes ont été aigus, donc, et on a démarré des recherches qu'on a interrompues immédiatement, et j'ai repris, puisque j'ai récupéré assez rapidement, j'ai repris le cours de ma vie.
Quelles sont les hypothèses qui ont été évoquées à ce moment-là ?
Il y a eu des investigations neurologiques, si je puis dire. On a fait un examen, c'était dans un contexte d'urgence. On a fait des examens qui n'ont rien montré sur le moment. J'ai eu une ponction lombaire qui n'a rien montré de véritablement significatif. Et puis, mis à part ce bras qui était paralysé, ce qui n'est pas rien, eh bien, je n'avais pas d'autres signes. Et puis, j'ai récupéré donc progressivement, assez rapidement, encore une fois. Et ma vie a repris son cours. Ce n'est que plus tard que des symptômes s'installaient de manière un peu plus insidieuse, des pertes de sensibilité, des faiblesses musculaires, une fatigabilité, mais peu typique en réalité si on la rattache pas à des symptômes un peu plus précis. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a redémarré les investigations.
Et est-ce que votre histoire personnelle est représentative de celle des patients atteints de PIDC ?
Probablement pas dans l'entrée de la maladie. Mon histoire personnelle n'est probablement pas représentative de celle de tous les patients atteints de PIDC, mais en réalité, chaque patient est unique. Elle ne serait pas représentative, je pense, parce que c'est une entrée assez violente, alors que souvent, pas toujours, mais souvent, l'entrée dans la maladie est un peu plus... est un peu plus sournoise, avec des signes qui finalement mettent parfois beaucoup de temps, quelques années parfois, avant de s'installer et avant de conduire le malade à consulter. Le parcours que nous rencontrons, parmi d'autres malades, est un peu différent, puisque les malades ont donc des symptômes qui sont ténus, qui sont des symptômes qui sont liés à des troubles de la sensibilité, des troubles de la motricité, bien souvent des douleurs, des pertes d'équilibre, qui conduisent dans un premier temps à aller voir le médecin généraliste. Le médecin généraliste, dans le meilleur des cas, va adresser son patient à un neurologue. Neurologue qui à ce moment-là, nous l'espérons, a déjà rencontré des polyradiculonévrites, en tout cas qui sera un interlocuteur important pour le malade, puisque ce neurologue de première ligne, si je puis dire, sera capable au moins de discriminer une maladie du système nerveux central d'une maladie du système nerveux périphérique. Et dans des maladies comme les nôtres, comme la mienne, c'est fondamental pour éviter de se noyer vers un diagnostic qui serait trop complexe et qui serait surtout erroné. Et évidemment, le pendant de tout cela, c'est la question de l'errance diagnostique. L'errance diagnostique, c'est ce délai entre les premiers symptômes de la maladie et le moment où finalement nous sommes capables de poser un nom sur la maladie. Et c'est un délai souvent insupportable pour les malades qui ressentent des symptômes sur lesquels on n'est pas capable de poser un nom ou sur lesquels finalement on a le sentiment qu'on se trompe de diagnostic. Le malade sent bien, qu'on ressent bien quelque chose de l'ordre d'une maladie, Mais face à soi, on a affaire souvent avec le médecin généraliste et personne ne lui jette la pierre, c'est difficile. Eh bien, on a affaire à quelqu'un qui ne voit pas une maladie rare.
Et pour prolonger un petit peu ma question, M. Plançon, quelle est justement, selon vous, l'importance de la coordination des soins entre les centres experts et les médecins de proximité ?
La question de la coordination des soins entre centres experts et médecins de proximité est fondamentale. Alors, la première chose est de dire que lorsqu'on arrive vers un centre expert, les choses sont quasi sauvé, c'est-à-dire nous savons que nous allons avoir affaire à des médecins, à des spécialistes, à une équipe pluridisciplinaire qui connaît la PIDC, qui connaît les PIDC et leurs symptômes et leurs éventuels traitements. Ensuite, le retour du centre expert vers la médecine de ville est très variable d'un centre expert à un autre. Cela reste clairement à construire, d'après moi. La relation entre ville et hôpital est vraie. Et reste à construire pour l'ensemble des maladies. C'est encore plus vrai pour des maladies rares et encore plus vrai pour des maladies très rares comme les PIDC. Et lorsqu'on discute avec des médecins experts, tout le monde en convient. C'est une nécessité. C'est à nous collectivement de trouver un moyen d'activer finalement ces réseaux à construire entre médecins, neurologues, pour que le plus tôt possible, le médecin généraliste ou le neurologue non ultra spécialiste, si je puis dire, eh bien, se trouve en capacité ou bien d'orienter ou bien de faire un diagnostic juste pour limiter cette errance diagnostique qui, pour les patients, est capitale. Parce que si on prend en charge rapidement un patient, si on diagnostique rapidement un patient, on peut être en capacité de le traiter rapidement et de limiter à la fois l'extension de la maladie et bien entendu les symptômes qui sont nuisibles à la qualité de vie. C'est dramatique. Enfin, au quotidien, un malade qui souffre de PIDC, un malade comme moi, j'ai du mal à fermer des boutons de chemise, je peux avoir du mal à me raser, je peux simplement avoir du mal à marcher. Des choses à faire, des gestes de la vie quotidienne qui pour vous sont, pour quelqu'un qui n'est pas malade, sont des gestes totalement anodins et qui pour nous malades deviennent une véritable préoccupation dans notre quotidien.
Alors vous êtes président fondateur de la FNP, l'Association française contre les neuropathies périphériques. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche ?
Oui, j'ai créé en 2006 l'Association française contre les neuropathies périphériques parce que à l'époque, j'avais le sentiment que nous n'avions rien à portée de main des malades pour rencontrer un discours de malade à malade. Et les médecins que j'ai rencontrés à ce moment-là, finalement, ne répondaient pas à mes préoccupations du quotidien. J'avais 30 ans, ma femme était enceinte, j'avais plein de questions sur mon avenir, sur ma vie présente, et j'avais le sentiment de ne pas avoir affaire au bon interlocuteur. Et c'est ce qui m'a motivé dans un premier temps à créer une association pour d'abord pour me sentir moins seul, pour persuader que je n'étais pas seul, que nous n'étions pas seuls. Et effectivement, je peux le dire, 15 ans plus tard, nous ne sommes pas seuls face au PIDC, face aux neuropathies inflammatoires en général. Et c'est un parcours qui est intéressant. Et vraiment, aujourd'hui, je suis heureux d'avoir osé franchir ce pas parce que les malades, je crois, se sentent moins seuls lorsqu'une association de patients est à leur côté.
Et aujourd'hui, quels sont les objectifs de l'association et son actualité ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ces projets en cours et à venir ?
Les objectifs de l'association et ses projets sont pas tout à fait les mêmes. Les objectifs n'ont pas véritablement changé. C'est accompagner les malades dans leur parcours de soins, limiter l'errance diagnostique. Autrement dit, dès qu'un patient nous pose une question, qui nous semble relever de l'expertise d'un centre de référence, eh bien nous l'adressons vers un centre justement expert pour qu'il puisse faire son travail d'expertise et le cas échéant faire un diagnostic juste pour le malade. C'est le cœur de notre travail. Et puis nous avons bien sûr des projets. Je pourrais citer un projet comme celui de la création d'une plateforme collaborative de collecte de données de vraie vie que nous avons mis en œuvre l'année dernière. C'est un site internet sur lequel peuvent se connecter les malades atteints de polyradiculonévrite chronique, mais pas seulement, de neuropathie inflammatoire au sens large, et sur lesquels ils peuvent répondre à c'est comme un questionnaire, si vous voulez, qui nous permet à nous malades de montrer ce qu'est la vie avec la maladie, ce qu'est la vie avec les traitements. Et aussi étonnant que cela paraisse, eh bien aujourd'hui, on n'a pas véritablement de cartographie très précise de nos maladies et finalement du retentissement du quotidien, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de la qualité de vie. On a des données qui sont éparses dans la littérature scientifique, mais on n'a pas véritablement cette cartographie qui nous intéresse. Et surtout, ce qui nous semble important à travers cette plateforme qui s'appelle NeuroQuali, c'est que ce sont les malades qui parlent. Ce sont vraiment les malades qui s'expriment et ce n'est pas quelqu'un qui va faire qui va être un vecteur de l'expression des malades. C'est le malade directement qui s'exprime.
Alors on arrive à la fin de notre entretien, Monsieur Plançon. Si vous aviez un message à faire passer au nom de l'association, quel serait-il ?
Oh, des messages, il y en aurait plusieurs. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes en France, nous avons la chance d'avoir un plan national, d'avoir plusieurs plans nationaux maladies rares qui se sont succédés, dont un plan national en cours qui a permis la création de centres experts, de centres de référence, de créer une communauté, si je puis dire, médicale, pas seulement une communauté scientifique, une communauté aujourd'hui qui s'accompagne également de la présence des patients, puisque nous sommes aussi présents dans cet écosystème, si je puis dire. Donc mon souhait, c'est de continuer à intensifier les choses, que les filières de santé maladies rares qui ont été créées, qui coordonnent les centres de référence, les centres experts, eh bien, se renforcent, qu'elles puissent avoir l'autonomie juridique dont elles devraient disposer pour devenir de véritables entités autonomes au service des malades, et puis qu'on renforce la place des malades dans ce qu'on appelle la gouvernance aujourd'hui de toutes ces entités qui facilitent l'accès aux diagnostics et aux traitements sur le territoire national, en particulier pour les pays d'essai, mais pas seulement. Donc voilà, moi je souhaite, alors je n'ai qu'une ambition, c'est que l'association un jour disparaisse parce que les pays d'essai auront disparu, mais évidemment en attendant que ce rêve se réalise, eh bien c'est que tous collectivement nous continuions à nous renforcer mutuellement, que les médecins continuent leur collaboration forte avec les malades, que les malades continuent leur mobilisation, et plus que jamais nous sommes mobilisés puisque vous imaginez bien que la maladie, eh bien, nous l'avons malheureusement chevillée au corps et ce qui nous anime, c'est le mieux vivre avec la maladie et le traitement de la maladie. Donc voilà, quelques pistes de réflexion pour améliorer les choses.
Eh bien, merci mille fois, Monsieur Plançon, pour votre témoignage qui nous a permis de mieux connaître cette maladie rare qu'est la PIDC. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram, Rare à l'écoute, ou notre site internet, www.rarealécoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette pathologie. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. À très vite !